Dis. La cantine était déserte, à l'exception d'un agent d'entretien, Fred, indiquait son badge, qui passait la serpillière. Il était encore trop tôt pour déjeuner, mais une coupe de fruits, oranges, pommes, raisins, bananes, était posée sur la première table. Luc prit une pomme avant de se diriger vers les distributeurs et il utilisa un de ses jetons pour acheter un sachet de pop-corn. Le petit déjeuner des champions, se dit-il. Maman piquerait une crise. Il emporta son repas dans l'espace détente et regarda en direction du terrain du jeu. Georges et Iris jouaient aux échecs, assis à une des tables de pique-nique. Avery effectuait de petits sauts prudents sur le trampoline. Aucun signe de Nikki et de Hélène. « Je crois que je n'ai jamais vu de pire mélange alimentaire, » dit Kalisha. Luc sursauta, laissant tomber quelques pop-corn par terre. « La vache, tu m'as fait peur. Désolé. » Elle s'accroupit pour ramasser les pop-corn et les goba. « Sérieux? J'y crois pas, » dit Luc. « La règle des 5 secondes qui purifie tout. » D'après le National Health Service, c'est en Angleterre, la règle des 5 secondes est un mythe, une grosse connerie. Le fait que tu sois un génie t'oblige à détruire les illusions de tout le monde? Je dis juste... Kalisha sourit et se redressa. Je te fais marcher, Luc. Miss Varicelle te fait marcher. Ça va? Ouais. T'as eu droit au traitement rectal? Parlons d'autre chose. Pigé. Ça te dit de jouer au cribage jusqu'au déjeuner? Si tu connais pas les règles, je peux t'apprendre. Je sais jouer, mais je n'ai pas envie. Je crois que je vais retourner dans ma chambre. Pour réfléchir à ta situation? En quelque sorte. On se voit au déjeuner. À la cloche. Rendez-vous est pris. Haut les cœurs, petit héros. Top là. Elle leva la main et Luc vit qu'elle avait coincé quelque chose entre son pouce et son index. Il plaqua sa paume blanche contre la paume brune de Kalisha et le petit morceau de papier plié passa d'une main à l'autre. À plus, mec. Elle se dirigea vers le terrain de jeu. De retour dans sa chambre, Luc s'allongea sur son lit, se tourna sur le côté, face au mur, et déplia le morceau de papier. Kalisha avait une écriture minuscule, soignée. Maureen t'attend à côté du distributeur de glaçons près de la chambre d'Avery. Le plus vite possible. Balance ce mot dans les chiottes. Il froissa le message, se rendit aux toilettes et lâcha la boulette de papier dans la cuvette pendant qu'il baissait son pantalon. Il se trouvait un peu ridicule, comme un gamin qui joue à l'espion, et en même temps pas du tout. Il aurait aimé croire que l'endroit où on chiait échappait à toute surveillance, mais il n'en était pas convaincu. Le distributeur de glaçons. Là où Maureen lui avait parlé la veille. Voilà qui était intéressant. D'après Kalisha, il existait plusieurs endroits où la surveillance audio fonctionnait mal, voire pas du tout. Mais Maureen semblait avoir un faible pour celui-ci. Peut-être en raison de l'absence de caméra. Peut-être parce qu'elle s'y sentait plus en sécurité, peut-être à cause du boucan de la machine. Et peut-être qu'il tirait des conclusions hâtives. Avant d'aller retrouver Maureen, il décida de se rendre sur le site du Star Tribune et il s'assit devant l'ordinateur. Il alla jusqu'à M. Griffin, mais pas plus loin. Il repensait à une vieille ballade que sa mère lui chantait parfois. « Je me demande, je me demande, je me demande », disait le refrain. « Mais en vérité, je ne veux pas savoir. » Voulait-il réellement savoir? Découvrir, peut-être, que ces salopards, ces monstres, mentaient et que ses parents étaient morts? Consulter le trib pour savoir, ce serait un peu comme un type qui joue toutes ses économies à la roulette sur un seul coup. Pas maintenant, décida-t-il. Quand l'humiliation du thermomètre se serait atténuée, mais pas maintenant. Et si ça faisait de lui un trouillard, tant pis. Il éteignit l'ordinateur et marcha en direction de l'autre aile. Maureen ne se trouvait pas à proximité de la machine à glaçons, mais son chariot de linge stationnait au milieu de ce que Luc considérait désormais comme le couloir d'Avery. Et il l'entendait chanter une chanson où il était question de gouttes de pluie, d'innombrables gouttes de pluie. Guidé par le son de sa voix, il découvrit Maureen en train de changer les draps dans une chambre décorée de posters de la Fédération mondiale de catch, montrant des malabars vêtus de shorts en lycra. Tous paraissaient assez méchants pour mâcher des clous et cracher des agrafes. « Bonjour Maureen, comment ça va ?»« Bien. Mon dos me fait un peu souffrir, mais j'ai mon ibuprofène. »« Un coup de main ?»« Merci, mais c'est ma dernière chambre et j'ai presque fini. »« 2 filles, 1 garçon. Attendu prochainement. »« Ça, c'est la chambre du garçon. Elle montra les posters en riant. Tu t'en doutes? Je voulais aller chercher des glaçons, mais je n'ai pas de seau dans ma chambre. Ils sont empilés dans un cagibi à côté de la poubelle. Elle se redressa en se tenant les reins et en grimaçant. Luc entendit craquer les vertèbres. Ah, ça va beaucoup mieux. Viens, je vais te montrer. Et il ne faut pas que ça vous embête. Ça ne m'embête pas. Allons-y. Tu peux pousser mon chariot si tu veux. Alors qu'ils avançaient dans le couloir, Luc repensa à ses recherches sur le problème financier de Maureen. Une statistique effrayante l'avait marqué. La dette des Américains dépassait les 12 000 milliards de dollars. De l'argent dépensé sans avoir été gagné, uniquement promis. Un paradoxe que seul un comptable pouvait savourer. Si une grande partie de cette dette concernait des crédits immobiliers ou des prêts aux entreprises, un montant non négligeable provenait de ces petits rectangles de plastique que chacun possédait dans son portefeuille. L'oxycodone des consommateurs américains. Maureen ouvrit un placard situé à droite du distributeur de glaçons. « Tu peux en prendre un pour m'éviter de me baisser ? Une personne indélicate a poussé tous les seaux au fond. » Luc se pencha à l'intérieur du placard en disant à voix basse « Kalisha m'a parlé de votre problème d'endettement. Je crois savoir comment le résoudre, mais cela dépend beaucoup de votre résidence officielle. » « Ma résidence ? Dans quel état habitez-vous ? » Maureen jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. On ne doit pas parler de choses personnelles avec les résidents. Si quelqu'un l'apprend, ça pourrait me coûter ma place, plus que ça même. Je peux te faire confiance, Luc ? Je dirai rien. Je vis dans le Vermont, à Burlington. C'est là où je vais pendant ma semaine de congé. Cet aveu sembla libérer quelque chose en elle. Et bien qu'elle continuât à parler tout bas, les mots se déversaient en un flot ininterrompu. La première chose que je dois faire quand je quitte le travail, c'est effacer un tas de messages de relance sur mon téléphone et sur mon répondeur quand je rentre chez moi. Lorsque le répondeur est plein, il dépose des lettres, des avertissements, des menaces dans ma boîte ou sous ma porte. Ma voiture, ils peuvent bien la saisir quand ils veulent, c'est un tas de ferraille. Mais maintenant, ils parlent de me prendre ma maison. Elle est payée pourtant, et pas grâce à lui. J'ai soldé le prêt avec ma prime d'engagement quand j'ai commencé ici. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu travailler à l'Institut. Mais s'ils saisissent ma maison, je perdrai la je sais plus quoi, la valeur résiduelle, murmura Luc. Oui, voilà. Ses joues au teint cireux s'étaient empourprées sous l'effet de la honte ou de la colère, Luc n'aurait su le dire. Et une fois qu'ils m'auront pris ma maison, ils voudront l'argent que j'ai mis de côté. Mais cet argent, il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi, mais ils me le prendront quand même. Ils me l'ont dit. Votre mari a dépensé tant que ça. Luc n'en revenait pas. Ce type devait être un vrai panier percé. Oui, chut, pas si fort. Tenant le seau d'une main, il ouvrit la machine à glaçons de l'autre. Le Vermont, c'est un bon point. Cet état ne reconnaît pas la communauté des biens entre époux. C'est quoi ça?
Une chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, pensa Luc. Il y a tellement de choses qu'ils vous cachent. Une fois que vous êtes collé au papier tu mouche, ils veulent que vous y restiez. Il prit la pelle en plastique qui se trouvait à l'intérieur de la porte du distributeur et fit semblant de casser des glaçons trop gros.
Les cartes de crédit qu'il a utilisées, elles étaient à son nom ou au vôtre? Au sien, évidemment. Mais c'est quand même moi qui harcèle parce que légalement, on est toujours mariés. Et c'est les mêmes comptes.
Luc entreprit de remplir le seau de glaçons en prenant tout son temps.
Ils prétendent qu'ils peuvent faire ça, et ça semble plausible. Mais en vérité, ils n'ont pas le droit. Pas dans le Vermont, en tout cas. Ni dans la plupart des États. Si votre mari a utilisé ses cartes, et si sa signature apparaît sur les factures, ce sont ses dettes. Ils disent que c'est les nôtres, à tous les deux. Ils mentent. Quant au coup de téléphone dont vous parlez, est-ce qu'ils ont lieu après 20 heures?
La voix de Maureen n'était plus qu'un murmure rageur.
Tu plaisantes? Des fois, ils appellent à minuit passé. Payez, ou sinon la banque saisira votre maison la semaine prochaine. Quand vous rentrerez du travail, ils auront changé les serrures et vous trouverez vos meubles dans le jardin.
Luc avait lu des histoires semblables, et pire encore. Les agents de recouvrement menaçaient d'expulser des personnes âgées de leur maison de retraite, ou de s'en prendre à de jeunes adultes qui essayaient de se lancer dans la vie. Ils étaient prêts à tout pour toucher leur commission sur l'argent qu'ils cherchaient à récupérer. Heureusement que vous êtes absente dans la journée et que la plupart de ces appels finissent sur votre répondeur. Vous n'avez pas le droit d'avoir un portable ici?
Mon Dieu, non. Il est enfermé dans ma voiture à... Pas ici.
Une fois, j'ai changé de numéro, mais ils ont réussi à trouver le nouveau. Comment ils font?
Très facile, pensa Luc.
N'effacez pas ces appels, conseilla-t-il. Sauvegardez-les. L'heure apparaîtra. Les agences de recouvrement n'ont pas le droit d'appeler les clients, c'est comme ça qu'ils les appellent, après 20 heures.
Il vida le seau et se remit à le remplir encore plus lentement. Maureen le regardait avec un mélange de stupéfaction et d'espoir naissant, mais Luc ne s'en apercevait pas. Immergé dans le problème, il suivait mentalement les lignes jusqu'au point central où il était possible de les couper.
Il vous faut un avocat. Mais surtout, évitez ces cabinets bidons qui font de la pub sur le câble. Ils vous prendront tout ce qu'ils peuvent et ensuite ils vous déclareront en faillite. Vous ne récupérerez jamais votre solvabilité. Vous devez choisir un avocat du Vermont, honnête, spécialisé dans l'endettement et qui déteste ces sales sangsues. Je vais faire quelques recherches et je vous donnerai un nom.
Tu peux faire ça?
Je pense.
S'il ne lui confisquait pas son ordinateur avant, évidemment.
Cet avocat devra découvrir quelle agence de recouvrement est chargée de récupérer l'argent. Ces gens qui vous font peur et vous appellent en pleine nuit. Les banques et les sociétés de crédit n'aiment pas donner les noms des escrocs qu'ils emploient. Mais à moins que la loi ait été abrogée, et il y a des individus puissants à Washington qui essaient de le faire, un bon avocat peut les obliger à fournir cette information. Les personnes qui vous appellent enfreignent la loi en permanence. C'est une bande de salopards qui opèrent dans des call centers.
Pas très différent des salopards qui travaillent ici, pensa Luc.
C'est quoi des calls? Peu importe.
Leur entretien s'éternisait.
Un avocat qui connaît son métier ira trouver les banques avec les enregistrements de votre répondeur et il leur laissera le choix. Elles oublient vos dettes ou elles se retrouvent au tribunal, accusées de pratiques commerciales illégales. Les banques détestent avoir affaire à la justice et elles n'aiment pas que les gens découvrent qu'elles utilisent des types qui ressemblent à des tueurs à gages dans un film de Scorsese.
Tu penses que je ne suis pas obligé de rembourser? Maureen n'en revenait pas. Luc observa son visage fatigué, trop pâle.
Vous avez fait quelque chose de mal?
Elle secoua la tête.
Mais c'est tellement d'argent. Il meublait son propre appart à Albany. Il achetait des chenifi, des ordinateurs, des télés à écran plat. Il a une poule et il lui fait des cadeaux. Il aime jouer au casino, tout ça depuis des années. Et moi, idiote que je m'en suis aperçu trop tard. Il n'est pas trop tard, c'est ce que...
Salut, Luc. Luc sursauta, se retourna et découvrit Avery Dixon.
Salut. C'était chouette, le trampoline?
Pas mal, mais ça m'a ennuyé à force.
Eh, hey, tu sais quoi? Ils m'ont fait une piqûre et j'ai même pas pleuré.
Bravo.
Ça te dit d'aller regarder la téloge jusqu'au déjeuner?
Iris dit qu'ils ont nickel Odéon, avec Bob l'éponge, inventeur en herbe, et bienvenue chez les Loud.
Pas maintenant, répondit Luc. Mais vas-y, fais-toi plaisir.
Avril les observa, Maureen et lui, puis il s'éloigna dans le couloir. Dès qu'il eut disparu, Luc se retourna vers Maureen.
Ce n'est pas trop tard, croyez-moi, mais il faut faire vite. Rendez-vous ici demain. Je vous donnerai un nom, quelqu'un de bien, qui a fait ses preuves, promis.
C'est... Oh, fiston, c'est trop beau pour être vrai.
Luc aimait bien qu'elle l'appelle fiston. Cela lui faisait chaud au cœur. C'était stupide, peut-être, mais c'était la vérité.
Non, justement, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Bon, faut que j'y aille, c'est bientôt l'heure du déjeuner.
J'oublierai pas,
dit Maureen en prenant la main de Luc dans la sienne.
Si tu peux...
Des portes claquèrent au bout du couloir. Luc s'attendait à voir deux intendants parmi les plus méchants, Tony et Zeke, par exemple, se précipiter vers lui. Il l'emmènerait quelque part pour l'interroger. Il voudrait savoir de quoi Maureen et lui avaient parlé, et s'ils ne répondaient pas immédiatement, ils utiliseraient les techniques d'interrogatoire poussé jusqu'à ce qu'ils crachent le morceau. Ils seraient dans de sales draps, mais pour Maureen, ce serait peut-être pire encore.
« Détends-toi, Luc, » dit-elle. « C'est les nouveaux résidents. »
Trois intendantes, tous de roses vêtues, franchirent les portes. Elles tiraient un convoi de brancards. Sur les deux premiers dormaient des fillettes blondes. Le troisième transportait un malabar rouquin. Sans doute l'amateur de catch. Tous trois dormaient. Alors qu'ils approchaient, Luc lâcha.
« La vache! Ces filles sont jumelles, on dirait. Parfaitement identiques. »«
Exact. Elles s'appellent Gerda et Greta. »« Allez, va manger. Il faut que j'aide à installer les nouveaux. »